C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Luc Ferrandez, bonjour.
Bonjour, Louis.
Nathalie Normando, bonjour.
Bonjour, Louis.
Alors, on va revenir sur le... J'ai fait une petite entrevue tout à l'heure avec la présidente du Fonds de solidarité du Québec qui a lancé une espèce de cri d'alarme hier. Est-ce qu'elle a raison d'affirmer qu'une crise de la retraite attend le Québec, Luc?
Pas le Québec, des Québécois. Parce que là, il y a des chiffres. C'est pas tous les Québécois, regarde. 6 travailleurs québécois sur 10 n'ont pas accès à un régime de retraite.
Ouais.
Donc, il y en a 4 sur 10 qui ont accès à un régime de retraite. Il y a, les revenus sont faibles sous le seuil de pauvreté pour 49,2% des retraités. Mais ça ne tient pas compte des propriétaires. Les propriétaires se sont formidablement enrichis au Québec, là. Formidablement, je pèse mes mots, là. Doubler, tripler la valeur de leur maison. Ils sont 60% de la population. Donc, quand on dit que ça va pas bien pour... l'écart est énorme entre une femme seule dans un logement locatif par rapport à un couple dans une maison qui leur appartient. L'écart est gigantesque.
Ouais. Nathalie?
Ben moi, Luc, contrairement à toi, je pense que tout le Québec sera affecté par cette crise de la retraite. Pourquoi? Parce que la pression fiscale va être très grande sur les jeunes, la jeune génération et peut-être nous, là, qui un jour allons prendre notre retraite, peut-être plus tardivement que ce qu'on espérait. Je salue cette sortie de Yannick Sébéic. C'est une sortie courageuse de sa part parce qu'elle met sur la table un autre enjeu de société auquel on est confronté. Elle dresse à la fois un portrait sombre et lucide. Tu l'as dit, Luc, près de 6 travailleurs sur 10 n'ont pas de régime de retraite. Elle dit qu'il y a la moitié des aînés au Québec qui vivent dans la précarité. Elle cite l'écart de différence, l'écart de richesse. Hein? Ça, c'est un thème qui est très, très cher au premier ministre François Legault, entre les aînés de l'Ontario et les aînés du Québec. Et je lisais hier soir une étude formulée par Luc Godbout et ses collègues de la chaire de recherche sur la fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Et ils ont réussi à faire l'étude date de février 2021, ils ont réussi à faire une projection de la pression que crée le vieillissement sur les finances publiques. Et si on prend les données de 2019 et qu'on se projette dans le temps, mettons avec une... Parce que la population du Québec va continuer de croître, mais les strates d'âge vont changer. Cette année, pour la première fois en 2022, la courbe des 65 ans et plus dépasse la courbe des plus jeunes. Alors, ce qu'il anticipe, là, c'est les calculs révèlent que l'impôt sur le revenu va être très, très grande et ça pourrait se traduire par une perte de 10 % de l'impôt sur le revenu.
Ouais.
Ça veut dire ça, mettons, on prend les chiffres de 2019, une perte nette de plus de 3,3 milliards de dollars dans les coffres du gouvernement. Une perte nette, plus, d'après moi, c'est un scénario conservateur. 3,3 milliards de dollars, là, c'est comme si demain matin, on ne pouvait plus financer notre service de garde et on ne pourrait plus financer le transport ambulancier au Québec. Alors,
ouais.
Et là, il propose des solutions comme Madame Yannick Sébéic propose des solutions également. Alors, on a vraiment un enjeu qui, selon moi, devrait interpeller tous les députés de l'Assemblée nationale. Et ça serait un très beau mandat pour cette législature qui va commencer au cours des prochains jours.
Mais qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Est-ce qu'on doit, par exemple, ajouter des incitatifs à prendre, par exemple, des REER? Il y a déjà des crédits d'impôt, là, justement, sur le Fonds de solidarité, de la FTQ, la CSN, etc. Est-ce qu'on doit augmenter, je sais pas, des aides comme celle-là venant du gouvernement pour inciter à l'épargne?
Ben, c'est clair qu'il y a un problème d'épargne. Je sais pas c'est quoi les moyens pour pousser les gens à l'épargne. Il y a déjà le CELI, RAP qui va être mis bientôt en ligne. Il y a le REER, bien entendu. Est-ce qu'il en manque? Je sais pas, mais le taux d'épargne des Québécois et des Canadiens s'est effondré depuis 20 ans. Le taux d'épargne des Ontariens était à 25 % en 1980. Puis il est à zéro en ce moment. Zéro. Il est à moins.
Pourquoi? Mais il y a une raison pour ça. Est-ce que c'est parce que le coût de la vie est trop élevé?
Ouais. Et comment ça se fait que le taux d'épargne est plus élevé chez les Québécois que chez les Ontariens, alors que le revenu moyen disponible est entre à peu près 5 000 $ moins élevé? Pourquoi? Parce que le coût de la vie en Ontario est trop cher. Puis c'est quoi la patente qui drive le coût de la vie? Le logement. Le logement. Legault dit qu'il va enrichir les Québécois. De la foutaise. C'est de la foutaise. Tant qu'il ne s'intéressera pas au logement, il va appauvrir les Québécois.
Je suis d'accord avec Luc là-dessus. Il y a l'épargne, le logement, mais Mme Bihic met sur la table deux solutions. Ben, il faut réduire l'écart de richesse urgemment qui touche les aînés. Et la mesure de comparaison est intéressante parce qu'elle dit pour réduire cet écart avec les aînés ontariens, parce qu'il y a certains organismes qui prétendent que c'est au Canada que qu'on produit les retraités les plus pauvres. Oh, tu sais, c'est quand même pas rien, là.
Ouais.
Nous, on pense qu'on vit dans une société progressiste qui est gâtée par la vie. On a un filet de sécurité sociale qui est extraordinaire, c'est vrai. Mais il y a une réalité, malheureusement, qui nous saute en plein visage aujourd'hui. C'est la précarité de nos aînés. Alors, ce qu'elle propose, Mme Bihic, c'est d'augmenter le soutien aux aînés de 4 000 $ et de bonifier les crédits d'impôt dès l'âge de 65 ans pour réduire, justement, cette... En fait, pour faire en sorte que les aînés aient plus d'argent dans leur poche. Parce que là, on parle des aînés d'aujourd'hui, mais nous serons les aînés de demain, les amis. Là. Puis moi, je pense aussi aux jeunes, à ton fils qui grandit, Luc.
Trop vite.
Et à ton fils qui grandit trop vite, oui, c'est ça. Mais lui, là, imaginez, tu sais, ces jeunes-là, là, il y a la pression liée aux impacts des changements climatiques, puis là, ils vont être appelés, happés par une pression fiscale, parce que qui va être sans précédent dans l'histoire du Québec. Il y aura moins de travailleurs actifs pour financer tous ces services que va commander le vieillissement de la population.
Mais ça met aussi en lumière, puis là, tu sais, quand on parle des négociations du secteur public, puis c'est vrai qu'ils veulent toujours plus d'argent, puis c'est normal aussi. Je pense que tout le monde veut augmenter quand tu regardes le taux d'inflation, puis etc. Là, on peut comprendre la hauteur de leur demande. Mais quand même, ce sont des gens qui ont tous un filet social, un filet de retraite, là. C'est-à-dire qu'ils ont tous
ils font partie des 4 sur 10.
Exactement. Des gens qui ont donné par l'État, ben pas donné, mais ils travaillent pour, là, vous allez me dire, mais ils ont quand même un filet de protection de retraite qui vaut cher.
Oui, mais attends une minute, Louis, là. C'est pas tous les fonctionnaires qui gagnent 100 000 par année, là, qui vont se retrouver avec un fonds de pension de 60, 70 000 par année, là. Ça, je serais drôle de creuser parce que beaucoup de fonctionnaires nous écoutent et beaucoup de fonctionnaires nous écrivent pour dire, ben, moi, je gagne 35 000 par année, 40 000 par année. Ouais. Souvent, c'est pas le clan d'aide de travailler pour le gouvernement.
Il y a une proportion de plus en plus grande, d'ailleurs, de gens qui sont pas à temps plein. Donc, effectivement, les salaires de 30 000, ça existe en fonction publique. Ouais. Mais c'est vrai
Je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas raison de demander plus, là.
Ben, moi, il y a des catégories qui ont raison de demander plus. Les greffiers et greffières, par exemple.
Tout à fait.
35 000 par année.
Ouais.
Tu sais, quand, me faire pleurer sur les infirmières, là, moi, je pleure plus, là. Je pleure plus. J'ai regardé les chiffres, je pleure plus. C'est un métier difficile pour certaines d'entre elles, pénible, même impossible pour certaines d'entre elles, notamment aux urgences. Mais c'est pas vrai que la moyenne des infirmières, sont dans rue, là. C'est pas vrai. Et donc, oui, t'as raison de dire qu'une infirmière, par exemple, qui gagne 70 000 $ par année, va avoir un fonds de pension qui va être... qui la fera pas tomber dans ces statistiques-là.
Non, c'est ça. Non, mais elles ont fait des gains. Elles ont livré plusieurs combats. On parle des infirmières au fil des années, puis elles ont remporté plusieurs combats, puis c'était correct de le faire. Mais moi, sur le plan politique, je souhaite revenir à ça, si vous permettez, parce que les gouvernements, les premiers ministres souhaitent laisser des legs aux générations futures. Il y a toutes sortes de legs qui ont été laissés au fil des années au Québec, là. Je vous donne quelques exemples. Hydroélectricité, l'assurance maladie, la loi 101, le Fonds des générations, la loi sur la protection du terre agricole. Il y en a une tonne. Je pense que le gouvernement de François Legault a une opportunité en or de léguer aux Québécois une formule fiscale, mais aussi il pourrait poser des gestes qui feraient en sorte que nos aînés seraient moins plongés dans la précarité, puis qu'on puisse penser à des formules pour nous préparer à faire face à ce mur qu'on a déjà frappé.
Je trouve qu'elle est très bonne, ta proposition, de dire faut que Legault fasse un grand chantier, retraite.
Je pense que j'en
propose une initiative. C'est de nous envoyer à tous les Québécois un nez rouge pour qu'on le mette sur le bout de notre nez, puis qu'on se dise qu'on est des clowns. Parce que on est des clowns. Regarde, là. Dans les 20 dernières années, on a accepté collectivement de payer 20 000 $ de plus pour notre voiture parce qu'on est passé à des voitures de meilleure catégorie, de meilleure qualité. 20 000 $ en moyenne de plus pour les voitures. Ce 20 000 $-là, si on l'avait mis à la banque, ben, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, il vaut combien?
Luc,
tu conduis quoi, toi, Nathalie?
Moi, je conduis une Subaru, j'ai déjà conduit une Jetta.
Écoute, non, mais on s'est gâté, Nathalie. On s'est gâté.
Je t'accuse pas. On s'est gâté parce qu'on s'est enrichi. Puis moi, je plaide pour le confort. Le confort, je pense que c'est important.
Tu plaides pour la retraite il y a deux minutes.
Non, ben oui, mais ben oui, ben s'il n'y a pas d'incongruité entre les deux, puis toi, Luc, qui est locataire dans la vie, je crois, pourquoi t'es pas devenu propriétaire un
jour? Parce que j'étais un gros nul, en finance, veux-tu?
Je pourrais t'accuser d'avoir jeté ton argent par les fenêtres,
oui,
mon cher
madame.
Luc.
Il y en a qui m'ont dit, avec ton salaire, je mettais 30 % de mon argent à la banque, puis moi, je les ai répondu, puis moi, je mettais 30 % de mon argent au restaurant.
Mmh. Puis toi, ton bicycle, c'est quelle sorte?
Chacun ses choix. Celui avec des gros pneus, là.
Hey, les pneus, c'est rendu 100 piastres, le pneu.
Ça, chacun ses priorités, oui. Non, mais tu vois, ça a le mérite, on a le mérite d'aller au fond des choses ce matin.
Voilà, exactement.
Mais blague à part, il y a un réel enjeu de société en cas, ce matin. Puis Luc, en passant, on peut pas tous se promener en lada, là. Je veux dire, à un moment donné...
Oui, madame!
Bon, OK, fin de cette portion. Mais en tout cas, madame Bic a quand même eu le mérite de comment dire, de susciter une discussion, puis peut-être...
Définitivement.
De lancer...
Oui, mais la pause, elle avait su que la discussion aurait de l'air de ce que ça a eu de l'air un matin. Elle l'aurait peut-être pas fait.
OK, on s'en va à la pause, on revient tout de suite après. On va parler de la langue française.
La commission Normando-Ferrandaise.
Tiens, on va, en deuxième portion, on va parler d'un sujet qui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire l'avenir du français. Le gouvernement doit-il sévir, rappeler à l'ordre les hôpitaux qui n'offrent pas de services en français? Tiens, on va commencer avec Nathalie.
Oui, ce sujet fait écho d'un article, une enquête en fait publiée par le Journal de Montréal en fin de semaine. I don't speak French. Dans cet article, on faisait état de francophones qui ont tenté de se faire soigner en français dans certains hôpitaux anglophones de Montréal, entre autres le CUSUM, l'Hôpital Général Juif, le Lakeshore, le St. Mary's. Et bon, ben là, le journal a fait une enquête, une grosse histoire avec tous ces témoignages recueillis. Moi, ma réaction, premièrement à ta question, Louis, est-ce que le gouvernement doit sévir et rappeler à l'ordre des hôpitaux qui n'offrent pas de services en français? La réponse, c'est oui, évidemment. Tous les hôpitaux au Québec, qu'ils soient francophones ou anglophones, ont la responsabilité, selon la loi sur la santé et les services sociaux, exactement, d'offrir des services en français. Cependant, j'en prends et j'en laisse, parce que il y a un côté de la médaille dont on n'a pas eu écho dans cet article, dont on n'a pas fait mention, c'est tous les francophones qui reçoivent à tous les jours des services en français dans tous ces hôpitaux. Combien de francophones de la grande région de Montréal vont se faire soigner, par exemple, en oncologie à l'Hôpital Général Juif de Montréal? Un hôpital qui souvent est cité par le ministre de la Santé, entre autres, pour sa capacité à innover, à imaginer des nouvelles façons de gérer. Ils sont en cardiologie, c'est la même chose. Alors, moi, oui, j'en prends et j'en laisse parce que la réalité est peut-être pas si dramatique que celle qu'on a laissé entendre dans cet article publié en fin de semaine.
Effectivement, j'avais le même point, Nathalie. J'y suis allé au CUSUM, j'y suis allé à l'Hôpital Juif pour différentes raisons, pour accompagner des gens, souvent. Puis c'est fou comment le français est présent quand même. Là. Donc, d'abord, il y a tout le personnel qui t'accueille, les gens à la cafétéria, une bonne partie du personnel soignant aussi. Tout ça, c'est vrai. Puis il faut les féliciter, puis ils font partie de la société, puis il faut pas leur faire, à un moment donné, il faut arrêter de leur boucher dessus. Sauf que, tu sais, l'exemple qui est donné fait mal à entendre. Les exemples qui sont donnés font mal à entendre. Cette dame du Saguenay, qui a un certain âge, vient du Saguenay, elle parle pas l'anglais, comprends-tu? Que
71 ans, puis elle arrive, puis elle est pas capable.
Le médecin qui est devant elle, il y a des années d'études, plus de 10 ans d'études, il a vécu à Montréal, comment ça qu'il parle pas français? Lui, il est éduqué, il est né dans une ville bilingue, de facto, francophone légalement, mais bilingue de facto. Comment ça que t'es pas capable de... T'sais, comment qu'il doit se sentir mal lui-même, à moins qu'il soit vraiment arrogant, de parler à une dame de cet âge-là, pas capable de dire un mot en français?
Ben, mais tu peux avoir des gens qui arrivent de l'extérieur aussi.
Ben voilà, ça c'est autre chose. Oui. Donc, parce que t'sais, au Québec, la base est en place là pour pas que ça se produise. Il y a l'examen uniforme de français à la sortie du cégep. Quelqu'un qui a fait toutes ses études en français là, tu as l'examen uniforme de français au cégep. Après ça, bon, mais tu fonctionnes dans la société à partir de l'université, ça se peut pas que tu parles si tu travailles dans cet hôpital là depuis des années, ça se peut pas que tu parles pas un peu beaucoup français.
Non, mais...
Alors, mais cette personne là, elle a peut-être étudié ailleurs, elle vient peut-être d'ailleurs, elle a peut-être été faire son stage aux États-Unis, elle revient de 10 ans de pratique aux États-Unis. Ça se peut, il y a des exceptions.
Mais si tu prends cet exemple là, Luc, le médecin en question a la responsabilité de trouver un collègue qui, lui, aurait pu discuter en français avec cette pauvre dame du Saguenay. On sait dans quelle situation de stress et d'anxiété on se trouve lorsqu'on est malade, lorsqu'on n'a pas de réponse aux questions qu'on pose aux professionnels qui nous soignent. Alors, on peut comprendre le tête de désarroi dans lequel cette dame a pu être plongée. Mais c'est de la responsabilité de tous les professionnels qui ne peuvent pas s'exprimer en français, de demander de l'aide de leurs collègues. Et s'ils ne le font pas, ben là, l'établissement doit rappeler à tout le monde leurs obligations.
Alors, Nathalie, on fait quoi avec un médecin? Tu sais, on est en pénurie de main-d'œuvre, puis ça touche.
Ouais.
Il manque des médecins aussi, la médecine, etc. Mettons, un chirurgien qui a étudié aux États-Unis, qui est pleinement qualifié, il a toutes ses qualifications pour venir travailler au Québec. Il correspond à tous les critères. Mais il parle pas français, on fait quoi? Il dit, tu restes chez vous puis tu viens pas travailler chez
vous? Non, au contraire. D'ailleurs, on devrait s'inspirer de la Colombie-Britannique qui a annoncé cette semaine un programme d'accueil de médecins étrangers. Je trouve ça absolument extraordinaire.
Mais ils ont pas le problème de français,
Je sais, mais la leçon qu'on doit tirer, c'est qu'ils sont prêts à développer un environnement qui permet de les accompagner, de les accueillir. On pourrait faire la même chose du côté du Québec. Puis commencer par reconnaître les compétences de nos médecins qui sont déjà établis au Québec, les médecins étrangers, là, puis qui s'enfargent dans les examens à ne plus finir du collège des médecins. Peut-être que si on commençait par régler ça, ce serait bien. Mais sur le plan politique, on veut toujours faire des grandes histoires avec ce genre de nouvelles. Luc, là-dessus, je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est normal d'aller dans un hôpital anglophone à Montréal et d'entendre parler anglais quand t'es dans les corridors. Ces hôpitaux-là, on a des hôpitaux anglophones et francophones au Québec. Je pense que c'est un héritage sur lequel on doit miser, rappeler les devoirs les plus élémentaires. Mais en même temps, ça fait partie de notre réalité culturelle, linguistique. Ça fait partie du paysage de la santé. Alors, dans ces conditions-là, le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, a dit, on va faire les suivis nécessaires. Certains pourraient lui reprocher sa timidité dans sa réaction, mais c'est pas lui le ministre de la Santé. Alors, lui, c'est son action limitée. Il peut certainement parler à son collègue de la Santé pour dire, Christian, c'est-tu possible pour toi de t'assurer que dans certains hôpitaux anglophones, que les gens qui sont là-bas, les francophones, soient soignés en français?
Rien à ajouter. Rien à ajouter, votre honneur.
Non, mais
t'as raison, Nathalie, t'as raison.
Luc, sur l'exemple que cite Louis, là, sur le médecin étranger qu'on accueille, qui ne parle qu'anglais.
Ou un Québécois qui est allé travailler 10 ans à l'étranger, puis qui revient, puis tout ce qui se rappelle là, en français, c'est Doritos, là.
Mais je me souviens, à Baie-Saint-Paul, mon Dieu, ça doit faire 25 ans de ça. Ça fait plus que ça, parce que je restais à Baie-Saint-Paul à l'époque. Puis, ma conjointe de l'époque avait subi une opération de routine, mais une opération pareille. Puis le chirurgien qui l'avait opéré était un homme d'origine ukrainienne.
Ah oui.
Qui était un excellent chirurgien, là, rien à dire. Mais Christy,
il parlait pas français.
Puis il était à Baie-Saint-Paul. Il parlait français, mais on comprenait pas.
Ouais.
Écoute, si c'est possible.
Ouais, c'est un pendant d'anglais, parce que quand tu parles en français, je comprends
rien. Exactement.
Non, mais imaginez si un médecin ukrainien se retrouve à Baie-Saint-Paul.
Tous ces exemples-là, on les prend avec humour. D'ailleurs, plusieurs des personnes qui étaient interviewées dans le journal disaient, écoute, quand on est à l'hôpital, on n'est pas là pour se plaindre. Fait que là, nous-mêmes, on a parlé en anglais, on a essayé. C'est après qu'on a formulé la plainte. Donc, tout ça, là, se fait très bien dans la vie quotidienne des gens. Ça se passe bien. Évidemment, on comprend le cas du médecin ukrainien. Là où est-ce qu'on comprend moins, et on espère que ça soit pas le cas, mais là où il y a matière à indignation, c'est si un jeune diplômé québécois d'université québécoise anglophone sont pas capables de dire yes no madame.
Ouais.
C'est là pas content. Mais c'est peut-être pas ça le scénario là.
Ou un joueur de hockey qui joue pour les Canadiens qui est pas capable pour les fans. Non.
C'est un autre débat.
On y reviendra. Mais Nathalie, on t'écoute à partir de 10h, Luc à partir de midi. À demain.
C'est 23.